trick, where I give us some ticket in the seats.
Be not on your face, so pretty, you're not Godzilla. Walk with it, what, why now? Me buy your house and your car for you right now. Only my little girl sing her eye now. That me not make your boyfriend find out. Tell me love on you, jump on the bike. She do love your body, you want to be like a knife. Me don't tell yourself you kick out the film tight.
Bonjour et bienvenue à l'émission La Voix des Immigrants sur CKUT 90.3 FM à Montréal. Je suis Mukala, votre animatrice. La Voix des Immigrants, un dialogue de citoyens d'ailleurs traitant d'enjeux des pays en développement, de questions traitées par les Nations Unies, l'OIT, traitant du travail, des droits de l'homme, du développement durable et traitant également de politique publique québécoise, une émission qui s'intéresse à l'organisation de l'État, au traitement des différentes missions des ministères de l'État québécois, la santé, les services sociaux, le travail, etc. Donc aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous allons parler de la politique nationale de lutte contre l'itinérance. Lors de l'émission précédente, nous avons parlé donc de l'incarcération des personnes vulnérables. Donc nous avons présenté un document, en fait un rapport de recherche de l'Institut de recherche d'information socio-économique, donc l'IRIS. Et aujourd'hui, donc, en lien avec l'incarcération de ces personnes vulnérables, dont les personnes itinérantes, nous avons voulu donc traiter de cette politique nationale de lutte contre l'itinérance. Également, nous allons discuter d'implications communautaires. Donc, restez à l'écoute. On se quitte pour une brève petite pause et on se retrouve pour des manchettes.
OK, are we ready? I'm Naomi Klein, author of The Shock Doctrine. You're listening to CKUT. Keep listening.
Me revoilà au micro. Donc, pour nos manchettes du jour, j'ai mentionné lors de la dernière émission que j'allais tenter de promouvoir les médias appartenant aux groupes culturels présents ici au Québec, hein, parce que je trouvais que dans les médias, populaire, la presse, Le Devoir, le Journal de Montréal, etc. Je trouve qu'il y a peu de journalistes semblant appartenir à ces groupes culturels. Donc, nos manchettes du jour tirent du média Les Nouvelles Chinoises que vous pouvez vous procurer sur le web. Première manchette, donc, datant du 23 avril, une manchette, de la publication Les Nouvelles Chinoises, mais en fait, publiée par l'agence de presse nationale chinoise Xinhua. Donc, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré mardi, donc on est le 23 avril, donc mardi, c'est-à-dire le 23 toujours, hier on était le 23, donc a déclaré mardi le 23 avril, mais on est, on se situe en Chine en ce moment, que le Royaume-Uni allait bientôt fournir à l'Ukraine la plus importante aide militaire de son histoire pour une valeur de plus de 621 millions de dollars. M. Zelensky a indiqué qu'il allait également discuter de la coopération bilatérale en matière de défense, notamment concernant donc, les capacités maritimes et de longue portée. Le Royaume-Uni serait l'un des pays donateur donc de l'Ukraine, donc il a promis apparemment donc jusqu'à 14,9 millions de dollars en soutien à l'Ukraine depuis février 2022, précisément, et 8,8 milliards de dollars pour l'aide militaire, donc selon le Parlement britannique. Et seconde nouvelle toujours, donc c'est publié en fait par l'agence de presse chinoise Xinhua. Dans la publication du journal Les Nouvelles Chinoises, Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, a déclaré que le bien-être du peuple était la plus grande importance dans la modernisation chinoise lors d'une tournée d'inspection dans la municipalité de Chongqing. Dans le sud-ouest de la Chine. Puis c'est une bonne nouvelle, en fait. Ce parti communiste chinois vise à veiller à ce que les gens vivent le plus heureux. Puis c'est une bonne nouvelle. Nous qui pensons qu'en Chine, en fait, ce n'est pas possible de vivre en Chine parce que, il y a une. Voilà, les droits de l'homme sont bafoués, mais non, on souhaite le bonheur du peuple chinois, donc c'est une bonne nouvelle. On se laisse pour une première petite pause musicale. On va écouter l'artiste Stromae, une vieille pièce, Santé. Ça faisait longtemps, hein, donc j'avais pas entendu cette pièce, et donc ça me fait un grand plaisir de vous la présenter aujourd'hui. Et on se retrouve tout de suite après avec notre premier sujet du jour, la politique nationale de lutte à l'itinérance politique nationale québécoise. Donc on se retrouve
à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que deux verres. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière.
Me revoilà au micro, donc la politique nationale de lutte contre l'itinérance. C'est une politique qui a été adoptée en 2014, mais qui a été reconduite en fait. Et depuis, le gouvernement a adopté un plan d'action interministériel pour mettre en œuvre cette politique. Donc, le nom de la politique est Ensemble pour éviter la rue et en sortir. Elle s'appuie sur l'affirmation de la dignité des capacités, sur la reconnaissance des droits de chaque personne. Donc, on comprend que même les personnes itinérantes sont considérées comme des personnes, voilà, comme tous et toutes. Cette politique nous invite à refuser de baisser les bras et affirme la nécessité de développer de nouvelles formes de soutien et de solidarité sociale, de participation et d'inclusion à l'égard des personnes et des familles en situation d'itinérance. Donc, elle veut... pour, en premier lieu, donc, prévenir et contrer l'itinérance. Elle indique aussi bon, qu'il est de la responsabilité de l'État et de tous, les acteurs de la société, de se montrer solidaires donc, à l'égard de ces personnes se retrouvant donc, en situation d'itinérance. Donc, le gouvernement entend donc, lutter contre les préjugés, les stigmates et l'exclusion de ces personnes. Donc, c'est ce qu'il a déclaré en 2014, mais on comprend que cette politique est reconduite aujourd'hui. Donc, en 2024, voilà, le plan d'action interministériel, c'est en fait, se termine en 2026, donc au moins jusqu'en 2026, mais on comprend que c'est en tout temps, en fait, qu'on veut lutter contre ces préjugés et stigmates à l'égard de ces personnes itinérantes. Donc, le gouvernement entend également soutenir le droit de cité de ces individus. Donc, quand on parle de droit de cité, on parle, en fait, c'est un terme en droit civil hein, qui définit les droits civiques ou politiques des citoyens. Donc, on veut, par ces droits civils ou politiques, protéger les droits fondamentaux, les libertés fondamentales des individus, donc contre l'atteinte de ces droits fondamentaux, là, si je peux dire. Donc, on parle du droit de vote, on parle du droit d'éligibilité, hein? On parle de la liberté d'opinion, de la liberté de réunion et d'association. Puis donc, on comprend que les personnes itinérantes également ont le droit de... ont accès à ces droits civiques ou politiques. Donc, on veut protéger donc leurs droits civiques ou politiques. Le gouvernement entend également soutenir la cohabitation harmonieuse entre tous les groupes de notre société, donc entre ces personnes, je dirais, itinérantes, vulnérables et autres, hein, personnes qui ne sont ni itinérantes ni vulnérables, si je peux dire. Donc, on veut combattre un certain sentiment d'impuissance quant aux problèmes que vivent ces personnes. Mais d'abord et avant tout, promouvoir et travailler sans relâche à la fois à l'inclusion, donc à la participation sociale de tous. L'itinérance, c'est quoi exactement, en fait? On le comprend, hein? Je veux dire, c'est un peu logique pour chacun d'entre nous. Donc, c'est l'absence ou l'impossibilité d'avoir un chez-soi. Le chez-soi, c'est le domicile. Ce qui est bien dans la politique, c'est qu'on discute un peu de ce qui est précisément l'itinérance, mais on indique donc le chez-soi, c'est plus qu'un abri. Hein, donc, l'absence de domicile se traduit par la difficulté d'être en relation avec les autres, de s'inscrire comme participant dans des institutions communes. Donc, habiter une demeure, habiter un domicile a des fonctions quadruples. Donc, premièrement, une fonction identitaire, car elle permet à l'individu d'être soi-même, d'être quelqu'un. Une fonction sécuritaire, puisqu'elle permet donc le contrôle d'un espace personnel lié à des besoins de protection, de stabilité. Habiter un domicile a également une fonction sur le plan de l'intégration en permettant de s'inscrire dans un monde commun et en favorisant ainsi la consolidation de réseaux personnels, familiaux et professionnels. Et finalement, donc, habiter un domicile a également donc une fonction au point de vue de l'autonomie, donc l'appropriation du pouvoir d'agir, ce qui soutient en retour l'exercice des rôles sociaux. Bref, hein, intéressant. Et si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, il faut contacter l'État québécois qui a rédigé la politique ou des spécialistes du sujet. Du domaine. Maintenant, donc, les principes directeurs de la politique, on a 6 grands principes. Reconnaître le pouvoir d'agir des personnes incarcérées et le renforcer. Donc, malgré le fait que la personne se retrouve en situation de vulnérabilité, donc cette personne itinérante, l'État québécois, donc la politique reconnaît les forces de ces personnes. Donc, ce sont des personnes qu'on doit considérer. Donc, l'État veut renforcer cette capacité d'agir de ces personnes itinérantes. On doit les considérer donc comme des citoyens à part entière, on l'a compris. Ce sont des gens qui ont accès à des droits civiques et politiques comme les autres citoyens. On a accès donc à des droits fondamentaux, au droit à la santé, à la sécurité, le droit donc au logement, à l'éducation, donc à tout autre service public. Puis donc on doit s'assurer de veiller à respecter ces droits de la dignité humaine. Et puis il faut s'assurer de demeurer particulièrement attentif et sensible aux réalités et besoins différents. Donc, ce sont des gens qui ont accès aux mêmes droits que nous, mais qui ont possiblement des besoins différents. Maintenant, troisième principe directeur est le fait qu'on doit se responsabiliser collectivement. Donc, on parle d'une stratégie globale. Ensuite, miser sur une approche d'accompagnement et de soutien. Reconnaître la diversité des visages, des parcours et des réponses. Et puis, dernier principe directeur de cette politique, donc d'assurer un leadership interministériel et une concertation intersectorielle. La politique, c'est un beau document de 74 pages, donc vous pouvez la consulter sur le site web, bien évidemment, sur le web. Je voulais vous indiquer que lors de la dernière émission, vous le savez, je vous en ai parlé il y a peu de temps, donc on a discuté de l'incarcération des personnes vulnérables, des personnes stigmatisées, les jeunes, les femmes, personnes autochtones, personnes racisées. On a compris que ces personnes sont incarcérés en plus grand nombre, en plus grande proportion, en fait, si je peux dire. Je vous ai parlé tout à l'heure donc, de la publication du rapport de recherche de l'IRIS, de l'Institut IRIS. Et donc, je me suis posé la question à savoir, pour les personnes immigrantes et autochtones, on parle donc d'itinérance. Quel est l'état de situation donc, de l'itinérance chez ces personnes immigrantes et autochtones? Le phénomène augmente chez les personnes immigrantes. particulièrement chez les jeunes et les femmes. Donc, le nombre de personnes migrantes dont la situation financière est difficile et qui sont sans statut de citoyenneté ou en attente de statut augmente dans les ressources où on offre donc des soins de santé. Mais bref, ce qu'on comprend, c'est que ce phénomène augmente chez les personnes immigrantes. Ces personnes immigrantes présentent les mêmes facteurs de risque, d'itinérance que l'ensemble de la population. Toutefois, leur arrivée récente au Québec ou leur appartenance à une minorité font en sorte qu'ils éprouvent d'autres difficultés. Donc, oui, ils sont des personnes itinérantes, mais en plus, il y a la méconnaissance de la langue, ils sont victimes de discrimination. On parle d'habitudes culturelles ou sociales qui rendent leur intégration difficile, les faibles revenus. Donc, voilà, tout ça fait en sorte que c'est plus que complexe pour une personne immigrante itinérante de s'en sortir versus une personne de souche. À leur arrivée au Québec, ces personnes itinérantes, en fait, immigrantes, pardon, à faibles revenus ont plus de risques de vivre dans des logements surpeuplés et insalubres. De plus, elles peuvent prendre un certain temps à se bâtir un réseau social, ce qui les rend encore plus vulnérables. Les familles migrantes, notamment, donc, qui fuient des milieux où elles vivent, sont victimes d'agressions, de violences, sont particulièrement à risque de se retrouver un jour dans la rue. Maintenant, chez les personnes autochtones, donc, c'est un peuple stigmatisé, discriminé, hein, on l'a compris. Donc, également, chez les personnes autochtones, en fait, les Premières Nations, population inuite également, donc, on a une grande problématique d'itinérance. En fait, de plus en plus, ces individus se retrouvent en situation d'itinérance. En milieu urbain, donc, ces personnes autochtones vivent un choc identitaire et culturel causé par l'anonymat, donc l'absence de vie communautaire. On sait que ce sont des gens qui sont... c'est ce qu'on comprend très bien. Et ils se retrouvent donc en milieu urbain, puis finalement, ils se retrouvent seuls. Donc, on les rend... Ce qu'on a dit, c'est que cela rend ces personnes vulnérables aux réalités urbaines et augmente leur risque de se retrouver en situation de pauvreté. Donc, voilà, la problématique... donc, un choc arrivé en milieu urbain, puis les difficultés d'intégrer ce milieu urbain, puis d'accéder aux ressources, différentes ressources possibles. Donc, dans les milieux urbains, les personnes autochtones font face à de nouvelles difficultés propices à l'errance. Donc, c'est-à-dire que, comme les personnes immigrantes, elles sont victimes de discrimination, de rupture avec le milieu social, donc d'isolement. Il y a une paire de repères concernant, entre autres, la langue parlée, la nourriture, la culture, l'identité, ce qui fait que c'est plus difficile pour elles également, probablement, de s'en sortir. J'ai interviewé sur le sujet une gestionnaire du réseau de la santé et des services sociaux qui applique donc cette politique de l'itinérance dans le cadre de ses fonctions. Certains éléments de l'entrevue reviennent, par exemple lorsque l'on parle des principes directeurs. Mais écoutez ce qu'elle a à dire, très intéressant, donc ce qu'elle a à dire particulièrement sur la gestion du dossier de l'itinérance par l'État québécois. Puis, je me pose la question également à savoir quoi faire, en fait, comment gérer l'accès au boulot pour ces personnes itinérantes, donc qui ont le désir de s'en sortir et qui cherchent donc un emploi et qui se retrouvent des fois, mais sans moyens, et sans donc moyens, ce qui implique donc sans logement, sans téléphone, et donc comment ces individus peuvent accéder à un emploi lorsqu'elles se retrouvent donc en fait en milieu de travail et déposent une candidature, mais sans ressources, en indiquant clairement à la personne qu'elles n'ont aucune ressource. Voilà, donc je pose la question, comment le gouvernement tente d'aider ces individus qui veulent s'en sortir, mais voilà, qui n'ont aucune ressource à présenter, ressource entre guillemets à présenter à l'employeur. Clairement, il y a discrimination, impossiblement. Donc, voilà. Et à la suite de l'entrevue donc, de cette gestionnaire du réseau de la santé et des services sociaux, on écoutera ensemble une pièce musicale de l'artiste R.J., je prononce à la française, R.J. Kanyera, donc un artiste congolais. L'artiste, un peu dans Chanson, vous l'écouterez, on parle du fait qu'il chante en lingala, par contre, c'est vrai, mais en fait, en gros, il explique que l'État congolais ne paie pas ou en en fait paient mal ses salariés. Puis voilà, puis c'est effectivement une problématique en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup. C'est une problématique en Afrique et ailleurs dans le monde également. Donc une grande problématique d'arriérage des salaires. Et donc il faut trouver un moyen là, de régler cette problématique. Et donc monsieur l'artiste en parle. Donc, on écoute ensemble pour débuter l'entrevue de la gestionnaire du réseau de la santé et des services sociaux. Puis, on écoute la pièce de R.J. Kanyara et on se retrouve pour la suite de l'émission. Madame, vous êtes gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Votre travail consiste, entre autres, à mettre en œuvre la politique d'itinérance du gouvernement québécois. Est-ce possible pour nous de nous parler brièvement de cette politique?
Oui, tout à fait. Donc, la politique mise en œuvre par le gouvernement québécois se nomme Lutte à l'itinérance. En fait, elle a été publiée en 2014. Cette politique met vraiment l'accent sur des principes directeurs qui favorisent en fait le travail de concertation interministérielle. Donc, c'est une politique qui met de l'avant l'importance de la mobilisation de tous les acteurs pour pouvoir vraiment améliorer la situation des personnes qui vivent justement en situation d'itinérance. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette politique a été publiée en 2014, comme je vous le disais, mais elle a donné naissance ensuite à un plan d'action interministériel en itinérance qui, dans le fond, traduit les principes directeurs et la vision de la politique en un plan d'action concret. Donc, mon travail actuellement consiste à vraiment implanter les actions découlant du plan d'action interministériel en itinérance, plan d'action qui s'échelonne de 2021 à 2026, et qui porte vraiment sur 14 différentes actions, mais articulées autour de 3 axes. Je vais vous nommer les axes. Le premier axe est celui de la prévention de l'itinérance. Le deuxième axe est celui de l'accompagnement des personnes en situation d'itinérance. Et le troisième axe est vraiment celui qui met de l'avant l'importance du travail intersectoriel. Donc, on a un plan d'action au Québec qui mobilise les différents acteurs parce que l'itinérance est un enjeu social complexe et la solution ne peut pas venir qu'uniquement du réseau de la santé et des services sociaux. La solution vient vraiment de différents acteurs impliqués autour des personnes en situation d'itinérance.
Merci. Et avez-vous une idée du taux de personnes itinérantes à Montréal ou au Québec?
En fait, oui, il y a eu deux exercices de dénombrement dont je pourrais vous parler pour vous donner une image concrète un peu du taux de personnes en situation d'itinérance. En 2018, donc dans la nuit du 24 au 21 avril, il y a eu un premier exercice de dénombrement qui a mis en évidence la présence de 6000 personnes en situation d'itinérance dans 11 régions différentes au Québec. Donc, en 2018, nous avions 6000 personnes en situation d'itinérance, dont environ la moitié demeurait. En fait, à ce moment-là, on parlait de plus de la moitié qui demeurait dans la région de Montréal. Le 11 octobre 2022 a eu lieu un autre exercice de dénombrement des personnes en situation d'itinérance. Et là, le nombre est passé à 10 000 personnes. Donc, 10 000 personnes en situation d'itinérance, dont 60 % à Montréal. Il faut savoir que lorsqu'on fait des exercices de dénombrement pour essayer d'établir le nombre de personnes qui vivent en situation d'itinérance, on parle surtout de l'itinérance visible, donc des personnes qui fréquentent l'espace public en situation d'itinérance ou qui se retrouvent dans les différentes ressources d'hébergement d'urgence qui sont destinées à cette population.
Parfait. Puis vous avez parlé d'itinérance visible. Maintenant, le gouvernement québécois parle de 3 types d'itinérance ou 3 autres types, c'est à vous de me le dire. Donc, on parle d'itinérance situationnelle, cyclique et chronique. Est-ce possible pour vous de me parler de ces 3 types d'itinérance?
Oui, en fait, ce sont trois types d'itinérance qui sont visibles. Par contre, ce qu'on vient définir à travers situationnel, cyclique et chronique, c'est un peu plus la persistance de l'itinérance dans le temps. Donc, je vous explique, quand on parle des personnes qui vivent une situation d'itinérance situationnelle, on parle d'un épisode ponctuel. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un jeune qui quitte les centres jeunesse et qui a besoin d'une période avant de se trouver un logement, peut vivre une situation d'itinérance situationnelle. Donc, c'est un épisode ponctuel avec un début et une fin, et ça touche plus souvent les femmes et les jeunes. Et c'est un type d'itinérance dans lequel on voit quand même un bon pronostic dans la capacité de se reloger. Ensuite, on parle de l'itinérance cyclique. L'itinérance cyclique fait plus référence à des répétitions d'épisodes. Donc, on parle de personnes qui vont se retrouver en situation de précarité, qui font qu'à plusieurs moments dans leur vie, elles vont se retrouver de façon ponctuelle en situation d'itinérance. On peut penser, par exemple, à des gens qui ont un faible revenu, qui arrivent à se loger et puis, quand les frais de loyer augmentent, ne parviennent pas à maintenir leur logement et là se retrouvent en situation d'itinérance et on peut voir un cycle comme ça qui peut revenir deux, trois fois dans la vie d'une personne. Finalement, l'itinérance chronique en est une vraiment où on parle d'une personne qui se retrouve selon un épisode plus long de situation d'itinérance et ça peut aller jusqu'à plusieurs années en situation d'itinérance. Donc, à ce moment-là, on parle vraiment de chronicité parce que la situation d'itinérance perdure dans le temps. Voilà.
Et le gouvernement du Québec parle de recours, de parcours, pardon, menant à l'itinérance, souvent marqué par la toxicomanie et les troubles mentaux. Abondez-vous dans le même sens?
L'opinion publique, c'est sûr qu'on associe souvent l'itinérance aux problèmes de toxicomanie, également aux troubles mentaux, sauf qu'il faut nuancer, je pense, et c'est important de le faire parce que pour bien aider les personnes en situation d'itinérance, il faut bien comprendre la réalité de l'itinérance au Québec. Si je vous parle davantage dans le dernier exercice de dénombrement, ce qui a été mis en évidence, c'est que la première cause menant à l'itinérance est l'expulsion et la perte du logement. La deuxième cause est effectivement liée à la toxicomanie. La troisième cause à un faible revenu. Quatrième cause à la présence de conflits dans la vie de la personne qui l'amène à se retrouver en situation d'itinérance et la santé mentale vient au cinquième rang. C'est important de bien détailler, de bien comprendre ce qui mène une personne en situation d'itinérance parce que si on veut l'aider à sortir de cette situation, il faut en comprendre la cause pour aller travailler sur ces éléments sources-là. Et non pas s'arrêter uniquement à penser que c'est une question de, par exemple, trouble mental, donc que la solution vient par des services du réseau de la santé et services sociaux. C'est important de comprendre, je vous disais un peu plus tôt en introduction, que l'enjeu de l'itinérance en est un complexe. Donc, c'est important de comprendre que différents parcours, différents avenues amènent une personne, différentes avenues, pardon, amènent une personne en situation d'itinérance. Il n'y a pas que la toxicomanie et les troubles mentaux.
Okay. Et pour les femmes, parce qu'en fait, en fait, le gouvernement indique de plus en plus de femmes et même de personnes immigrantes, mais on va revenir à la situation des personnes immigrantes. Donc, de plus en plus de femmes sont itinérantes. Et est-ce qu'il existe un parcours spécifique pour les femmes itinérantes?
Il n'y a pas de parcours spécifique. Ce qu'on voit, tout à l'heure, je vous expliquais un petit peu les cinq causes de façon générale qui mènent, les cinq causes prédominantes qui mènent à l'itinérance. Du côté des femmes, d'abord, la première chose que je pourrais vous nommer, c'est que c'est environ un tiers de la population en situation d'itinérance au Québec qui s'associe là à femmes cisgenres. Donc, on a à peu près une personne sur trois. Et ce qui a mené ces personnes-là en situation d'itinérance, quand on regarde les facteurs ou les causes, on voit qu'au premier rang, dans ce cas-ci, c'est vraiment les mauvais traitements. Donc, une personne qui se retrouve dans des conditions de vie dans laquelle durant lesquelles elle subit des mauvais traitements, c'est la première cause, parce qu'elle veut fuir cette condition de vie, c'est la première cause qui amène une femme en situation d'itinérance. Ensuite, il y a l'expulsion. Et tout à l'heure, je vous disais que de façon générale, l'expulsion, donc la perte du logement, était une cause significative. Il y a ensuite des conflits interpersonnels avec le conjoint, entre autres. Faible revenu et au cinquième rang, la toxicomanie. C'est donc dire que chez les femmes qui se retrouvent en situation d'itinérance, c'est plus souvent pour fuir une situation d'abus ou une situation de conflit qui va amener cette personne-là à être en situation d'itinérance. Ceci dit, hein, y a quand même, faut garder en tête que le portrait de l'itinérance est complexe, le portrait de l'itinérance est varié, mais c'est quand même peut-être la différence qu'on voit quand on regarde le phénomène chez les femmes, cisgenres versus chez les hommes cisgenres. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est en situation d'itinérance, c'est sûr que les femmes se retrouvent en plus grande situation de vulnérabilité ou plutôt de fragilité, et elles doivent vraiment mettre en place différentes stratégies pour survivre là, dans ces contextes-là.
Et est-ce qu'on a une idée des stratégies qu'elles mettent en place pour survivre, ces femmes?
Souvent, elles vont chercher, par exemple, à se regrouper. Souvent, elles vont chercher aussi une certaine protection de d'autres personnes autour d'elles. Donc, ça fait partie, évidemment, des différentes stratégies qu'elles ont à mettre en place pour essayer d'assurer leur sécurité.
Puis, les personnes immigrantes, d'après donc le gouvernement du Québec à nouveau, se retrouvent de plus en plus en situation d'itinérance. Est-ce vrai?
Il y a de plus en plus de personnes au Québec qui se retrouvent en situation d'itinérance. Hein, je vous ai mentionné l'augmentation quand on parle de 10 000 personnes lors du dénombrement de 2022 versus 6 000 personnes lors du dénombrement de 2018. Ce qu'on n'a pas encore abordé durant l'entrevue, mais qui est important de mettre en place, dont il est important de discuter, c'est vraiment l'accès au logement. Les logements se font rares et les logements abordables encore plus rares. Donc, pour les personnes qui, au terme d'un parcours migratoire, arrivent ici au Québec, se loger devient un enjeu encore plus grand. Et cet accès limité au logement abordable peut effectivement amener certaines personnes à se retrouver en situation d'itinérance. Donc, oui, on voit dans les différents visages de l'itinérance, on voit vraiment des personnes dont le parcours migratoire les a amenées en situation d'itinérance.
Puis, est-ce que le gouvernement le mentionne? C'est quand même étonnant de l'apprendre aujourd'hui qu'on parle d'un parcours migratoire qui n'a pas réussi, entre guillemets. Est-ce que le gouvernement en parle suffisamment, d'après vous?
Je pense que le gouvernement est très sensible à la situation des personnes en situation d'itinérance, justement. Et il y a des gestes concrets qui sont mis en place par le gouvernement. Entre autres, il y a des investissements massifs qui ont été faits, oui, au niveau du réseau de la santé, des services sociaux, mais également au niveau de l'habitation. Je pense que les exercices de dénombrement aussi qui sont faits à la demande, entre autres, du ministre Carman, permettent de mieux comprendre le phénomène de l'itinérance, de mieux en comprendre aussi les sources pour être capable ensuite d'agir. Je vous ai parlé du plan d'action interministériel qui est articulé autour de trois axes. Le premier axe, c'est celui de la prévention. Donc, tout ce qui peut être mis en place pour faire en sorte qu'on évite le passage à la situation d'itinérance, ça fait partie des préoccupations ministérielles, puisque c'est même enchâssé dans le plan d'action interministériel en itinérance.
Donc, il existe clairement un lien entre la crise du logement et l'itinérance. Comment combattre les préjugés à l'égard des personnes itinérantes et les inclure ou éviter leur exclusion sociale?
D'abord, je pense qu'on l'a nommé à quelques reprises durant l'entrevue. D'abord, il faut comprendre le phénomène. Il faut comprendre ce qui peut amener des personnes à se retrouver en situation de précarité, de vulnérabilité et d'itinérance aussi. Plus on va en connaître davantage, plus on va prendre le temps de bien décortiquer les différents parcours, plus on va être en mesure de mettre en place des solutions préventives, mais également d'accompagner les personnes qui le désirent vers la sortie de l'itinérance. Donc, je pense qu'un des premiers éléments, c'est vraiment, une des premières clés, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre le phénomène. Ensuite, pour lutter un peu contre les préjugés, puis mieux inclure et accompagner des personnes, il est vraiment important de travailler ensemble. Et ce n'est pas qu'une phrase cliché. Il faut agir à la fois au niveau des revenus, donc de l'emploi. Il faut agir en même temps au niveau du logement pour avoir de plus en plus d'unités de logement abordables. Il faut parfois même aller travailler au niveau des différentes réglementations. Également, et il faut également assurément augmenter l'accessibilité aux services santé et services sociaux. Donc, première piste, comprendre. Deuxième piste, travailler ensemble. Troisième élément, il faut aussi vraiment favoriser la cohabitation sociale. On cherche à sortir toutes les personnes de l'itinérance. Par contre, pendant que certaines personnes on vive dans des situations de précarité, il faut s'assurer qu'on soit capable de tous cohabiter ensemble, qu'on soit capable quand même de garder une certaine solidarité entre les différentes personnes dans l'espace public. Donc, la cohabitation sociale fait partie des clés pour lutter contre les préjugés. Et j'en ai un peu mentionné aussi, tout mettre en œuvre pour favoriser l'accès aux services de santé, mais également aux services sociaux, là, services d'accompagnement. Et je tiens à nommer aussi toute l'importance du réseau des partenaires communautaires à différents niveaux, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, que ce soit au niveau de l'immigration, que ce soit au niveau de la santé mentale. Différents partenaires communautaires font aussi partie de la clé qui va nous aider à lutter contre les préjugés à des personnes en situation d'itinérance.
Puis, dernière question, est-ce que vous avez une idée des ressources disponibles, en fait? Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-unes, ressources disponibles pour aider ces personnes itinérantes?
Il y a vraiment différentes ressources. Et puis, il faut vraiment se dire De quoi a besoin une personne qui vit en situation d'itinérance? Et puis, il y a des ressources qui sont là pour répondre à la plupart des besoins. Donc, on peut parler de, comme je vous disais, la sécurité alimentaire. Donc, il y a des partenaires communautaires dont l'objectif, la mission est vraiment d'offrir de la nourriture aux personnes en situation d'itinérance. Il y a des partenaires qui vont offrir des différents soins de santé, d'accompagnement, de services sociaux. Là où se trouvent les personnes. Il y a des ressources qui ont plus comme mission aussi d'offrir un gîte. Donc, on parle des ressources d'hébergement d'urgence, mais on parle aussi des maisons de transition. On parle aussi d'accompagnement vers le logement supervisé. On parle aussi de halte chaleur. Il y a des ressources aussi qui vont plus favoriser, par exemple, l'acquisition de logements, qui vont favoriser aussi l'accompagnement dans la recherche d'emploi. Donc, il y a vraiment différentes ressources communautaires qui sont présentes dans notre écosystème et qui permettent de répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance. Et pour la demande est forte, toutefois, là, faut dire que la demande est forte et puis il faut vraiment continuer à travailler ensemble pour soutenir ces personnes.
Et pour avoir le nom de ces ressources, on peut se rendre sur le site du gouvernement du Québec, donc, ou le réseau de la santé et des services sociaux.
Exactement. Vous avez nommé les bons sites. Donc, si on va faire une recherche sur le site du ministère de la Santé et Services sociaux, mais également, je suis convaincue qu'il peut y avoir des ressources aussi sur les sites des municipalités. Également, à Montréal, il y a le site Santé Montréal, où il y a des ressources également de disponibles. Et puis, il y a toujours possibilité de contacter dans la région métropolitaine le 211, qui est également un bottin de ressources qui permet quand même d'identifier certains partenaires qui pourraient répondre aux besoins.
Je vous remercie énormément. Ce fut une entrevue hyper intéressante et enrichissante.
Merci à vous de prendre le temps de vous intéresser à la question des personnes en situation d'itinérance.
Merci une fois de plus.
Au revoir.
Posa kopema. Kufakasi. Orji originali gangi didi tuti abra. Kati ya mie nao ni mawingo. Nibi imbeje. Nibi semeje. Nifuraije. Nibi bambeje. Nitenkunyeje. Nibi mwangeje. Neti, ajaya ale taba futa kate. Barere na bizele kebele. Ezo pesa kanda mecho ezate. Musa la makasi membongo ezate.
Voilà au micro. J'espère que vous avez apprécié la pièce de R.J. Camara, donc cet artiste qu'on verrait. Juste en passant, donc Monsieur voilà, Camara dénonce le fait que l'État congolais ne paie pas ses fonctionnaires et autres salariés. Hein. C'est, comme je le mentionnais, une problématique en République démocratique du Congo, en Afrique et ailleurs dans d'autres nations également. Puis, des citoyens congolais se sont rassemblés donc, ici au Québec pour justement créer un organisme pour parler justement de cette cause et veiller comment, vérifier comment la régler, je dirais de façon définitive, en fait, de façon définitive. Donc, un organisme, et puis ben, ce nouvel organisme a été créé. Voilà, puis... partie de 43, mais un organisme un peu là, qui, je dirais, qui s'est créé par des citoyens congolais, donc, une communauté congolaise, en fait. Puis voilà, mais donc, un organisme inconnu qui va demeurer inconnu. L'objectif, ce n'est pas de se faire voir, hein, selon les dirigeants de l'organisme, mais c'est vraiment de participer avec donc, la diaspora congolaise, donc de participer avec l'État congolais, donc là-bas, l'État congolais, puis le peuple congolais, donc en RDC, à la mise sur pied, à l'amélioration, je dirais, là, de l'organisation sociale, économique du pays, donc de discuter entre autres de cette question d'arriérage des salaires pour qu'elle soit réglée de façon définitive. Donc, Concernant donc l'implication communautaire, l'État québécois a adopté donc un plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire qui se termine en 2027, donc un plan d'action 2022-2027. Le gouvernement du Québec contribue à construire, veut par l'action communautaire construire une société plus juste, équitable et inclusive. Dans le document, dans le plan d'action, c'est bien intéressant, on parle de l'action communautaire, en fait de l'histoire, de l'action communautaire. Donc, au Québec, elle s'est organisée à partir des années 1960, donc autour d'enjeux sociaux, donc de plusieurs mouvements comme le mouvement féministe, ouvrier, étudiant, donc en voulant donc contribuer au développement donc d'une société plus juste et égalitaire. À l'époque, l'action communautaire était appelée donc animation sociale. Puis, elle a surtout débuté donc, dans les grands centres urbains ainsi que dans les régions périphériques et éloignées afin donc, de répondre à différents enjeux à l'échelle locale donc, dans ces milieux donc, de régions périphériques et éloignées. Donc, on s'appuyait donc à l'époque sur une mobilisation et un engagement des membres de la collectivité sur la mobilisation et l'engagement des organismes communautaires. Ces organismes proposaient donc des initiatives adaptées donc, aux différents enjeux et aux préoccupations qui leur étaient propres. Dans les années 70 à 80, cette action communautaire s'est développée, s'est diversifiée dans un contexte de grande transformation sociale, politique et économique. Dans les années 90 à 2000, cette action a été marquée par une plus grande concertation des différents acteurs du milieu communautaire et par le renouvellement de la relation entretenue avec l'État. Et depuis lors, donc depuis les années 2000, le milieu communautaire continue de jouer un rôle structurant. Le filet social et économique du Québec, il travaille, donc le milieu communautaire travaille en effet pour la justice sociale, l'égalité des chances, en mettant donc en œuvre une vision inclusive de la société. Maintenant, donc, concernant l'action communautaire en milieu autochtone, bien intéressant, donc des peuples très unis, des peuples très solidaires. Donc, au sein des milieux autochtones du Québec, les rapports sociaux sont, oui, établis autour, on l'indique, historiquement établis autour de valeurs de coopération, d'entraide, de solidarité, d'engagement et de cohésion grâce à un enracinement dans la collectivité, un fort sentiment d'appartenance. Donc, les Premières Nations et les Inuits considèrent donc les différentes problématiques sociales comme un ensemble dans lequel les individus sont étroitement liés à leur environnement. Donc, si je comprends bien, ces problématiques font partie de leur environnement. L'action communautaire repose en effet sur l'émancipation des potentiels individuels et collectifs et sur la volonté partagée de mettre en œuvre des stratégies, des moyens adaptés aux besoins des Autochtones. Donc, ce sont des gens très, très solidaires et qui vivent différentes problématiques. Et cette action communautaire doit répondre aux besoins de ce peuple solidaire, entre autres. Dans cette perspective, l'action communautaire peut représenter donc un moyen de favoriser le développement social des milieux autochtones du Québec. Chez les Autochtones, en fait, donc, il y a plusieurs secteurs d'activité où il y a action communautaire, donc famille, santé, services sociaux. Elle tient compte des besoins spécifiques aux différents milieux. Donc, intéressante histoire de l'action communautaire au Québec. Maintenant, donc, l'action bénévole est importante. Hein? Également, donc, l'action communautaire, en fait, c'est l'action des différents organismes communautaires, mais par la suite, il y a l'action bénévole. Donc, on a besoin pour faire vivre ces organismes de personnes bénévoles. Donc, les bénévoles contribuent à tisser des liens de solidarité, à améliorer les conditions de vie de la population québécoise. Ces gens qui vont travailler pour la mission de l'organisme communautaire, leur contribution est indispensable donc, à tous ces organismes. Donc, ces organismes comptent sur les bénévoles, hein, des bénévoles, je le dis bien, donc, non, donc des personnes salariées donc, pour réaliser leur mission. Le gouvernement souhaite l'action bénévole, donc il le mentionne, hein, il dit qu'il s'engage à continuer de reconnaître et de promouvoir l'engagement volontaire et bénévole à titre d'illustration. Il y a eu la mise sur pied d'un prix hommage Bénévolat Québec, qui est en œuvre depuis 1997. En 2022, bon, on parle bien de 2022, il faut vérifier, c'est une autre édition. En 2022, on parlait de la 25e édition, mais donc, en fait, concrètement, ce prix Hommage Bénévolat Québec veut remercier, honorer des bénévoles et organismes communautaires, voilà, donc, parce qu'on a besoin de ces organismes pour la mission sociale, en fait, du Québec, pour soutenir. On parle d'une société d'égalité des chances, une société inclusive, etc., de justice sociale, donc, voilà. Puis, donc, le gouvernement veut favoriser ou prône l'action bénévole. J'ai effectué une brève petite recherche. Puis, quand on parle d'action bénévole, on parle d'implication, on parle également de jouer ce qu'on appelle son rôle de citoyen actif. Les dirigeants de la société québécoise, tout comme les dirigeants de toutes les autres nations, souhaitent que nous soyons des citoyens actifs, c'est-à-dire que nous allons jouer un rôle dans le développement du Québec. Être un citoyen actif, c'est s'impliquer. Pour défendre des causes, influer donc sur ces enjeux ou des enjeux sociaux. Donc, c'est en fait chercher à créer une société solidaire, forte, inclusive, où le bien-être de toutes et de tous est privilégié. C'est en fait agir en tant que citoyen responsable, individu responsable. Donc, l'action bénévole, c'est être également agir en tant que citoyen responsable. Mais parallèlement, cette action bénévole nous permet d'être actifs, de demeurer actifs, de socialiser, de se développer un réseau, des compétences également. Le gouvernement intéressant indique que ces changements reliés, je dirais, à l'action bénévole, hein, lorsqu'on s'implique, puis finalement on défend une cause, donc on veut influer sur des enjeux, ces changements ont plus de chances d'être des changements durables. Durables, c'est-à-dire qu'ils vont demeurer dans le temps, donc on transforme notre société québécoise ou peu importe l'endroit où on se retrouve, on transforme la société. Puis, des changements durables, un peu comme, hein, je vous en ai parlé, le gouvernement parle de développement durable. Hein, puis donc, ce développement durable, en fait, vise des effets positifs qui durent dans le temps. Donc, c'est pas développer une société pour le plaisir de la développer, mais on parle également d'effets positifs, donc de quelque chose voilà, qui amène l'État québécois dans une belle et bonne direction, si je peux dire. Et le développement durable, donc, c'est répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain, donc respirer, boire, manger, dormir, etc., des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc, hein, nous, on peut respirer, boire, manger, dormir aujourd'hui, mais il faut que les générations futures soient en mesure également de respirer, boire, manger, dormir. Hein, évidemment, respirer, boire, respirer, oui, mais après, bon, hein, l'accès, je veux dire, les revenus insuffisants. Font en sorte qu'on peut avoir des difficultés à boire, se nourrir, se loger, puis c'est ce qu'il faut avoir en tête. Les générations futures doivent, comme nous, être en mesure de se nourrir et se loger sans difficulté. Donc, l'action communautaire l'action communautaire, oui, elle est nécessaire. Elle vise à créer une société plus juste, plus égalitaire, etc. Et on a besoin de bénévoles pour maintenir, donc soutenir les missions de ces organismes communautaires. Puis, en étant bénévole, on joue notre rôle donc de citoyen actif, donc de citoyen responsable. Puis voilà, et c'est des changements voilà, qui va créer par l'action, je dirais, bénévole, communautaire, ben, sont des changements qui risquent d'être durables. Puis tant mieux. Hein. Et donc, voilà. Et l'action, c'était dernièrement, donc la semaine, en fait, dernièrement, elle se termine le 27 avril, la semaine de l'action bénévole au Québec. Donc, vous pouvez, vous avez quelques jours encore, deux jours. Mais sinon, chaque année, il y a une semaine de l'action bénévole au Québec. Puis sinon, ben, il y a le Centre d'action bénévole québécois là, qui peut vous renseigner sur les différents organismes québécois vous permettant... qui vous permettront de vous impliquer. Donc, on se laisse maintenant pour une pause musicale juste avant la fin de l'émission. Donc, un artiste, des artistes d'Amérique latine, MC Gusta et Lucas Loco. Donc, la pièce Remixendo. Donc, une pièce de 4 minutes. Et donc, on se retrouve par la suite pour la fin de l'émission.
Pina Records.
Attention! Everybody to the dance floor. Everybody to the dance floor.
I'm ready.
Rocky McKenway.
Are you ready?
Go. Déjate llevar por la adrenalina y el ritmo de esta canción.
Mano para el suelo, nalga para arriba. Siente la sensación.
Duro por detrás, pa' arriba y pa' abajo, ella le da, pide contacto,
a lo ya había,
si quieres rápido o slow, no dejes caer el dembow, déjala que suelte cadera, como cuando bailaba en flow, si no la saca ya lo baila sola, la descontrola, rampa pam, rampa pam pam, cuando el DJ le suena esta rola,
y antes que te te quema, que te descontrole el sistema, va a darle pa'l piso sin pena y zoom, 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 oye nena,
si sientes que ese ritmo te quema, que te descontrole el sistema, va a darle pa'l piso sin pena y zoom, 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 bailalo.
Me revoilà au micro, donc les sons sont terminés. Je voulais vous inviter à découvrir l'artiste Robin Kaseka, donc une artiste, en fait, réalisatrice et actrice également. Elle a joué dans les films I Like en 2016, Commencement en 2020 et Antoine Lachance, La Porte de l'Hôpital en 2021. Donc, elle est sur le web, tapez Robin, R-O-B-I-N-E et Kaseka, le nom de famille K-S-K-A. Et vous allez découvrir l'artiste. Maintenant, vous vous rappelez à peu près dans deux émissions, deux ou trois, j'ai indiqué que j'ai commandé des épices d'un maître traiteur, chef ou chef. Voilà, et puis j'indiquais que j'avais commandé donc des épices, donc du paprika fumé et du sel de mer aux herbes. Et puis c'est excellent, donc je vous recommande surtout le sel de mer aux herbes. C'est salé, mais pas trop. Puis voilà, il y a un piment à l'intérieur, donc c'est vraiment excellent, ça donne vraiment un bon goût aux aliments. Donc, je vous recommande de les commander. Allez sur Google, Chef ou Chef, et puis vous allez trouver donc, le site web de ce maître traiteur ou de ce traiteur. Et vous pourrez vous commander voilà, différentes épices. Donc, l'émission est terminée. J'ai fait soulever toujours bénévolat pour le Centre des travailleuses et travailleurs immigrants du Québec et au Centre sont attachés l'Association des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires et travailleuses et travailleurs d'agences de placement. Et donc, si vous éprouvez des difficultés en lien avec vos conditions de travail, contactez le centre 514-342-2111, 514-342-2111. Vous avez également le site internet iwc-cti.ca, donc iwc-cti.ca. Donc, pour l'émission d'aujourd'hui, pour plus d'informations, si vous voulez nous rejoindre, contactez-nous au département de la production. Production@commercialsécurité.ca. Il y a également donc les différents réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et donc, rendez-vous à la prochaine émission le 23 mai. Donc, ce fut une belle émission, bien intéressante. Donc, n'oubliez pas de vous impliquer. Ça fait partie d'une rôle attendu des citoyens, donc d'être des citoyens responsables. Et donc, si on veut se créer une super société, ensemble, on peut se créer la société que l'on veut, mais ça prend donc l'implication, la participation de tous et de toutes. Donc, on se dit à la prochaine au 23 mai 2024 et je vous souhaite donc...
Show about theater on the radio. Testing 1, 2, 3. Oh, there we go. I was just having some issues there with my mic. You are listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca. All right, after that little blip, we are off. This is the show about theater on the radio in Montreal. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. Professional, student, and community productions in and around Montreal.